vous invite à trouver Colossiens chapitre 3. Transformation. C'est incroyable que là, vous et moi, si vous êtes chrétiens, nous sommes en pleine transformation. Cet esprit de liberté dont Timo a parlé est à l'œuvre en nous pour nous libérer, nous changer véritablement. Et nous avons commencé la semaine passée à étudier ce chapitre où Paul nous explique la manière ou le procédé, la procédure de sanctification chrétienne. Comment est-ce que vous êtes transformé et quelle est votre partie dans tout cela? Et nous avons vu, donc, dans un premier temps, que toutes les religions du monde, à part le christianisme, vous proposent des doctrines ou des principes ou des idées ou des pratiques ou des rituels pour vous changer. Et le christianisme est complètement différent. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de doctrine, etc., mais que la sanctification chrétienne, la transformation de ta vie, n'est pas posée sur une idée, n'est pas posée sur une pratique que tu peux ou ne peux pas très bien accomplir, mais posée sur un événement historique où Christ a bouleversé le rapport de force entre toi et le péché, entre toi et le diable. Sa mort et sa résurrection, nous sommes crucifiés avec lui quant à notre ancien homme et nous sommes ressuscités. Nous ne pouvons pas revenir sur tout cela, mais je vais quand même vous lire les quatre versets que nous avons étudiés la dernière fois, les versets 1 à 4 dans le chapitre 3. Si donc, et le si veut dire puisque, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute là-dedans, si, puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non ce qui est sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Nous ne pouvons pas revenir sur tout cela, mais nous pouvons quand même dire et rappeler que la vie chrétienne n'est pas « voilà ce que vous devez être, tâchez d'y arriver ». Ça s'appelle le moralisme. La vie chrétienne est « voilà ce que vous êtes devenu, laisse fleurir complètement cela dans ta vie ». D'accord ? Voilà ce que tu es devenu en Christ, allez-y, laisse-le paraître. Bien, maintenant nous allons lire le reste de notre passage pour ce matin et donc essayer de comprendre notre partie dans tout cela. Ok, donc nous lisons à partir du verset 5 et nous allons lire jusqu'au verset 14. Donc 5 à 14, pas trop loin. Donc voilà ce que Dieu nous dit par son apôtre. Faites donc mourir votre nature terrestre, littéralement dit, il dit vos membres qui sont sur la terre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez là-dedans autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature, il vaut mieux traduire le vieil homme, c'est pas une nature que chacun de nous a, c'est une humanité, une entité collective dont nous faisons partie. Vous avez dépouillé le vieil homme, l'ancienne humanité. Avec ses pratiques et revêtu le nouvel homme, littéralement, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a là, dans ce nouvel homme, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous dans cette nouvelle humanité. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, vous, d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors, aujourd'hui, nous voulons juste comprendre une chose, c'est que la transformation chrétienne, enfin notre partie dans tout cela, comporte deux actions complémentaires. Vous l'avez vu peut-être dans le passage, vous avez vu deux versets, deux termes clés, dépouiller et revêtir. Dépouiller et revêtir, deux faces d'une même pièce. Je voudrais prendre notre passage, si vous pouvez déjà tourner à Éphésiens 4 pour que nous puissions voir ça un peu concrètement en action, et nous allons essayer de comprendre. Se dépouiller, et revêtir. Voilà la procédure de la transformation. Et si vous pouvez, dans les semaines à venir, quand nous sommes ensemble sur ce sujet, comprendre mieux, si Dieu vous fait la grâce de saisir vraiment ce que c'est et comment le faire, parce qu'il va falloir 2 ou 3 semaines pour que nous entrions complètement dans le sujet, il n'y a aucun doute que votre vie chrétienne sera différente. Vous serez entré vraiment dans la manière de sanctification chrétienne que souvent les chrétiens ne comprennent pas, malheureusement. Quand ils pensent à la transformation de leur vie, comment surmonter leur colère, ou leur convoitise, ou leur orgueil, ils, plus ou moins, demandent à Dieu de m'aider et c'est plus fort. Et donc, ils n'ont pas une vie chrétienne. Leur manière de sanctification n'est pas christocentrique, n'est pas fondée dans la mort et la résurrection de Christ, et n'est pas en train de suivre et appliquer, approprier cette mort et cette résurrection. Et donc c'est une sorte de religiosité, une sorte de moralisme dont nous devons, chers amis, sortir et apprendre la manière que Dieu nous donne qui est formidable. Donc, si vous êtes à Éphésiens 4, nous allons lire les versets 25 et 20, jusqu'à 29, et je veux vous demander de regarder les deux phases, les deux actions complémentaires, quelque chose à dépouiller et quelque chose à revêtir chaque fois, quelque chose à rejeter et quelque chose à assimiler, quelque chose à ne plus faire et quelque chose à faire. Regardez bien ce passage. Je veux juste vous montrer qu'il est vraiment dans le même contexte parce que vous allez voir les mêmes paroles à partir du verset 22. À cause de votre vie passée, juste avant la fin du verset 21, c'est-à-dire vous dépouillez, voilà, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature, c'est le même mot, le vieil homme, qui se corrompt par des convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir, voilà le deuxième, le nouvel homme, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Maintenant, tenez bien, regardez bien, par rapport à chaque péché, il y a les deux phases, les deux actions. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle la vérité avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Deuxièmement, si vous vous mettez en colère, littéralement, le passage dit « mettez-vous en colère », mais le traducteur avait peur de dire ça, « mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas accès au diable. » Regardez bien le verset 28. « Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais, deuxième action, qui prennent plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je vais m'arrêter là. Quand est-ce que un voleur n'est plus un voleur? Beaucoup de gens diraient quand il cesse de voler. Ce n'est pas vrai. Selon ce passage, un voleur n'est plus un voleur quand il cesse de voler, commence à travailler honnêtement et commence à donner à ceux qui ont besoin. Vous voyez la différence? Il y a dans l'optique chrétienne ces deux choses négatives et positives qui ne peuvent jamais marcher l'une sans l'autre. Ça m'amène à mon deuxième point. Nous venons de voir quoi? Nous venons de voir tout simplement que la démarche chrétienne de sanctification comporte deux actions complémentaires, négatives, dépouillées, positives, revêtir. Je n'ai même pas expliqué ce que c'est, mais on va y arriver. Mais nous sommes amenés à donc cette réflexion que beaucoup de chrétiens ont des ennuis avec leur vie chrétienne, précisément parce qu'ils essayent de faire marcher leur vie chrétienne par une seule de ces deux actions. Par exemple, voilà Jacques qui veut donc vivre une vie chrétienne, mais il est très axé, presque exclusivement axé sur le négatif, dépouillé. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, n'est-ce pas? Et il est toujours en train de lutter contre, et ne faire que lutter contre. Alors, il est tombé dans un piège horrible et sa vie chrétienne ne peut pas aller bien avec cette moitié de la démarche chrétienne de sanctification. D'abord, il perd de vue son but, n'est-ce pas? Quand tu ne fais que aller contre quelque chose, tu oublies pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ne dis plus des gros mots? Pourquoi est-ce que tu ne fais plus de commérages? Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas certains films? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'exploser? Il y a une raison pour cela, n'est-ce pas? Qui ne sort pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si tu te limites à cela, tu es quelqu'un de vide. Tu dis rien de mauvais, mais tu dis rien de bon. Je ne peux pas imaginer une personne plus neutre, vanille et vide que la personne dans la vie tourne autour de ce que je ne fais pas. Je ne vais pas là, je ne touche pas ça, je ne dis pas ça. Et donc, qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, je cite Éphésiens 4, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je ne dis pas ces choses parce que j'ai envie de devenir plutôt le contraire, qui est beau, qui est excellent, qui est formidable. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier, perdre de vue le positif, le vrai but. Julie est une jeune dame mariée et quand elle a grandi, donc les fourmis micro-ondes étaient déjà présents. Moi, j'ai vécu le moment où ça a commencé. Il n'y avait pas de micro-ondes quand j'étais jeune. Mais peut-être vous n'avez jamais vécu un moment où il n'y avait pas de micro-ondes à la maison. C'était comme ça pour Julie. Elle a toujours vu que sa maman ne mettait jamais un récipient en verre dans le micro-ondes. Jamais, jamais. Que du Tupperware, que de plastique. Et donc, une fois qu'elle a quitté le foyer, elle s'est mariée, elle fait comme ça aussi. Elle ne met jamais... On ne met jamais un récipient vert dans le micro-ondes. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Sauf que sa maman ne le faisait pas parce que les seuls récipients verts qu'elle avait étaient grands et sa micro-ondes était petite. C'est la seule raison. Alors que la micro-ondes de Julie est grande. Elle a perdu de vue le but, le pourquoi. Qu'est-ce qui reste quand on perd de but? Il ne reste que « je ne fais pas ça parce que c'est ce qu'une bonne femme fait ». Voilà. Et je ne regarde pas ça parce que c'est ce qu'un bon chrétien fait. Vous ne pouvez pas être motivé par une telle motivation. Le négatif, le négatif, le négatif. Donc c'est un piège terrible. Il y a un autre danger là-dedans, dans ce négativisme exclusif, c'est la possibilité que vous deveniez obsédé par la lutte contre un seul péché. Alors, dans ma vie pastorale, j'ai vu à plusieurs reprises des gens qui sont devenus empêtrés, vraiment embourbés pendant des années, c'est triste de le dire, dans un cycle vertueux parce qu'ils se sont obsédés par la lutte contre un seul péché. La colère, l'excès de table, la convoitise sexuelle. Et en voulant lutter contre ce péché, qu'est-ce qui leur était arrivé? La vie chrétienne qui est incroyablement large et qui comprend tellement de choses merveilleuses, de devenir tellement de choses, de faire tellement de choses, leur vie chrétienne s'est rétrécie pour être plus ou moins une chose. Je dois vaincre la convoitise. Ou je dois vaincre la colère. Et donc, comme leur horizon s'est tellement rétréci, bien sûr, rien ne pouvait aller. Rien ne pouvait aller après cela. Parce que tout ce qui est là dans la vie chrétienne, qui est attirant, qui est attrayant, qui est glorieux, ils n'avaient plus en vue. Il y avait juste la lutte contre ce seul péché. Et donc, la libération, j'ai vu, en conseillant les gens, en leur disant que ta vie tourne autour d'une mauvaise chose. Et plus tu penses à cette mauvaise chose, plus tu pries au sujet de cette mauvaise chose, plus tu mémorises des passages que sur cette mauvaise chose, plus cette chose t'attrape. Voilà. Parce que tu es tout le temps en train de tourner autour d'elle. Et j'ai vu des personnes libérées en comprenant que la démarche chrétienne n'est pas « ne fais pas », mais aussi « fais tout cela, cherche, approprie, deviens ». Donc voilà les dangers d'une démarche qui comporte seulement le négatif, se dépouiller. Mais, et plus courtement, il y a des gens qui veulent mener la vie chrétienne seulement avec le positif, revêtir. Ils n'aiment pas le négatif. Aujourd'hui, c'est de bon ton, n'est-ce pas, de ne pas aimer tout ce qui est négatif. C'est mauvais de dire que ça, c'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Rejeter, refuser, c'est des gros mots aujourd'hui, n'est-ce pas, pour certains. Et il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent prospérer comme chrétiens en se concentrant seulement sur les bonnes choses de la vie chrétienne. Alors dites-moi, si vous aviez un jardin, une pelouse, peut-être que vous en avez, mais vous pouvez l'imaginer au moins, comment est-ce que ça irait pour votre pelouse si, pour lutter contre les mauvaises herbes, vous ne faites que le positif, c'est-à-dire vous n'arrachez jamais une mauvaise herbe, vous plantez seulement des grains de gazon. Vous arrosez là où il y a gazon, vous l'arrosez, vous faites tout ce qui est positif, mais vous n'arrachez jamais une mauvaise herbe. Comment ça va aller? Je vous dis que ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Et si vous pensez que vous pouvez changer et être transformé seulement en cherchant le positif, alors je vous dis, les mauvaises herbes vont complètement dominer votre vie. En fait, nous sommes naïfs et un peu ignorants quand nous agissons comme ça, parce que dans ton cœur, il y a des mauvaises herbes incroyables avec des racines très longues, je vous assure. Et ça, ça ne s'enlève pas en arrosant le gazon à côté. Je vous dis s'il n'y a pas une action négative par rapport à cela, vous êtes cuit. Je vous cite deux versets. D'abord, on dit au Seigneur, au sujet du Seigneur Jésus-Christ lui-même ceci. C'est une prophétie au sujet du Messie qui va venir. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Donc nous voyons dans Jésus ces deux attitudes, ces deux positions de cœur. Et quant à vous, ici, Dieu vous exhorte dans l'Épître aux Romains, dans ces mots. Que votre amour soit sincère, fuyez le mal avec horreur, attachez-vous fortement au bien. Les deux choses. Je ne veux pas être dans mon caractère chrétien de fond en comble militaire, mais je veux avoir une partie de caractère militaire en moi quand il s'agit de lutter contre le péché. Ne soyez pas efféminés dans votre lutte contre le péché. Ok, maintenant, nous allons juste poser deux questions par rapport à la partie dépouillée, et puis le reste, il va falloir aller plus loin. Je veux quand même vous dire où on va aller dans les semaines à venir. Nous allons parler aujourd'hui et un peu dimanche prochain, Dieu voulant, de se dépouiller. Et la semaine prochaine, nous allons commencer à parler de se revêtir, ok? Donc excusez-moi de voir divisé, je ne veux pas, c'est pas bien divisé ces deux choses, mais je suis obligé. Donc aujourd'hui, se dépouiller. On va pas finir ce sujet, mais on va commencer. Donc on va demander, c'est quoi se dépouiller? Le terme, ça veut dire quoi? On va demander, de quoi est-ce qu'on doit se dépouiller? D'accord? Et la semaine prochaine, on va voir la motivation pour se dépouiller et le comment. Donc attention, parce que si vous êtes laissé sur votre faim, je ne vais pas vous dire comment vous dépouiller du péché. Je réserve ça pour les deux semaines à venir. Ok, mais on va quand même définir le terme aujourd'hui. Ok, on y va. Et je vais aller vite. Que veut dire se dépouiller d'un vice? Se dépouiller d'une vice? Si vous retournez en Colossiens 3, vous voyez qu'il y a trois termes pour cette action négative dont Paul nous parle. Donc au verset 5, nous voyons « Faites donc mourir vos membres sur la terre, l'inconduite, l'impureté, la passion, etc. » Ensuite, il dit dans le verset 8 « Maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. » Et dans le verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé. » Donc, on les retient. Faites mourir, rejetez, se dépouiller. C'est ça, se dépouiller? Oui, ok. J'avais peur de la fin du verbe. Ok. Donc, si vous avez remarqué, le terme « se dépouiller » est dans le passé, puisque dans ce verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé le vieil homme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, se dépouiller, c'est vraiment un mot qui vient, une métaphore de vêtements, ok? On revêt des vêtements, on se dépouille des vêtements. Et ça veut dire quelque chose comme ceci. Habillez-vous selon votre identité. Le prisonnier, le criminel, en prison, il a des vêtements de criminel. Autrefois, c'était des trucs avec des rayures, n'est-ce pas? Et tout le monde connaissait, blanc et noir, les rayures, c'est un prisonnier. Okay? Mais maintenant, quand il a purgé sa sentence, et il est libéré, ben, il ne va pas aller dans la ville comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça ne correspond plus à qui il est. Il n'est plus prisonnier, il n'est plus sous la sentence d'une peine, et il s'habille selon qui il est. Alors, vous, cette nuit, probablement, vous avez une sorte de pyjama ou de vêtements de nuit, n'est-ce pas? OK? Mais vous n'êtes pas venu avec ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus un dormeur. OK? Quand vous vous réveillez, vous n'êtes plus un dormeur et vous vous habillez selon ce que vous êtes et ce que vous faites. Et donc, Paul dit, vous avez dépouillé l'homme ancien, cette autre identité, vous n'êtes plus comme ça. Vous n'êtes plus une personne immorale, égoïste, etc. Alors, habillez-vous de vertu selon votre identité. Donc ça, c'est le premier mot. Que nous avons dépouillé, nous avons donc laissé de côté l'ancien homme. Le deuxième mot, rejeter, alors je le dis lentement, rejeter, pour que vous compreniez, parce que le mot grec signifie vraiment de mettre de côté ou de mettre loin. D'accord? Pourquoi est-ce que Paul utilise ce verset? Parce que si vous allez vous sanctifier chrétiennement, par rapport aux choses mauvaises, les vices, la convoitise et la colère et l'égoïsme, il faut que vous ayez une démarche donc, qui ne laisse plus l'occasion, qui ne laisse plus l'opportunité. Je vous explique ce que je veux dire. Jésus a dit ceci. Il a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Pourquoi loin de toi? Pour que tu puisses plus l'utiliser. Si c'est juste là, je regarde plein de mauvaises choses avec mon œil droit. L'œil gauche, ça va. C'est, bien sûr, c'est imagé. Jésus raconte une image. Donc, je mets mon œil droit juste là, à côté de moi, comme les jeunes font avec leur téléphone. Comme ça, si jamais, je peux, sous la table, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te sanctifier comme ça. Si tu as un problème avec la convoitise, ou avec la colère, ou avec l'excès de table, il faut que ta démarche soit d'enlever les occasions, d'enlever les opportunités, d'accord? Loin de toi. Et ça, je vais vous en parler de comment dans 2 semaines. OK? Mais peut-être une histoire peut... non, je vais laisser ça. OK, c'est une question d'opportunité. Donc, je veux que je n'ai même pas la possibilité d'attraper ça parce que je l'ai rejeté tellement loin de moi. OK? Il y a des manières de faire que je vais vous expliquer. Troisième mot, c'est faites mourir. Faites mourir. Alors là, c'est fort. Faites mourir, dit-il, cette impureté, l'inconduite, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Alors, vous comprenez bien pourquoi Paul utilise ce mot, parce qu'il n'y a pas de pitié. Alors, est-ce que tu as un peu de pitié vis-à-vis de ton meilleur péché, ton péché favori? Un peu de pitié? Tu ne veux pas vraiment le tuer. Tu veux lui dire non, le limiter, n'est-ce pas? Mais pas le tuer. Et là, tu ne vas jamais arriver. Parce que c'est seulement quand il y a une démarche qui est de mortifier, de mettre à mort le péché, que vous allez y arriver. C.S. Lewis, l'auteur, professeur à Cambridge, a écrit, bien sûr, les livres sur Narnia, les films de Narnia que vous avez vus en cinéma, mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle Le Grand Divorce. Le Grand Divorce, c'est une histoire, pas vraie, mais au sujet du ciel et l'enfer, donc le grand divorce. Mais seulement dans son histoire, il raconte quelque chose qui n'est bibliquement pas possible, mais pas possible, j'aime pas l'idée, mais il a fait tout un livre là-dessus. C'est qu'il a fait semblant que les gens à l'enfer, au moins certains, pouvaient venir en bus volant jusqu'au ciel pour avoir une dernière chance pour aller au ciel. Donc, chacun, il sort du bus et il est affronté, il est rencontré, soit par un ange, soit par une personne sauvée qui essaie de les convaincre de se repentir et d'être sauvés. D'accord? Bon, peu importe. Mais la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que dans une des personnes qui arrive, qui sort du bus, et donc qui est confrontée par un ange, il y a une petite anecdote qui nous aide à comprendre cette histoire de faites mourir le péché. Alors, je vous raconte, je vous lis. Donc, il y a ce. Je dois vous dire juste un détail, que lorsque les gens de l'enfer viennent au ciel, ils sont des fantômes. C'est-à-dire, ils ne sont pas solides. D'accord? Les gens au ciel sont solides, mais les gens de l'enfer, tant qu'ils ne sont pas sauvés, ils sont éphémères, ils sont un peu vaporeux. D'accord? Ok? Donc, quand je parle du fantôme, ça c'est le mec de l'enfer. Ok. Voilà. Il y avait un fantôme qui visite le ciel, donc, et qui porte sur son épaule un petit lézard rouge. Et le lézard tressaille et fouette la queue, et presque sans arrêt, il murmure des choses dans l'oreille du bonhomme, du fantôme. Et cet homme, il devient de plus en plus agacé par le lézard. Et il lui dit de se taire, mais avec peu d'effet. Et donc, je reprends l'histoire à ce point. Donc, l'ange arrive vers ce bonhomme, le fantôme. Le fantôme semble se diriger vers le bus qui le ramènerait à l'enfer. L'ange lui dit, sitôt, tu rentres? Oui, je pars. Merci pour votre hospitalité, mais ce n'est pas bon, vous voyez. J'ai dit à ce petit gars, il montre au lézard, qu'il devrait rester tranquille s'il venait, car il insistait qu'il voulait m'accompagner. Mais bien sûr, ses préoccupations à lui n'iraient jamais ici. Parce que ce lézard représente la convoitise sexuelle, l'immoralité sexuelle. Bien sûr, ses préoccupations n'iraient jamais ici, je m'en rends compte, mais il n'arrêtera pas. Je vais devoir rentrer à la maison. L'ange puissant s'est approché de l'homme, a demandé, voulez-vous que je fasse taire le lézard? Bien sûr, dit le fantôme. Alors, je vais le tuer, dit l'ange, en faisant un pas en avant. Regarde. Oh, tu me brûles. Éloigne-toi, dit le fantôme en reculant. Tu ne veux pas qu'il soit tué? Tu n'as rien dit de le tuer au début. Je ne voulais pas te déranger avec quelque chose d'aussi drastique que cela. C'est le seul moyen, dit l'ange. Puis-je le tuer? Regarde, il s'est endormi de lui-même. Je suis sûr que tout ira bien maintenant. Merci beaucoup. Puis-je le tuer? Honnêtement, je ne pense pas. Pas qu'il y ait la moindre nécessité pour cela. Je suis sûr que je serai en mesure de le garder en ordre maintenant. Un autre jour peut-être. L'ange dit, il n'y a pas d'autre jour. Recule, tu me brûles. Comment puis-je te dire de le tuer? Tu me tuerais si tu le tuais. Ce n'est pas vrai, dit l'ange. Alors pourquoi se fait-il que tu me fais déjà mal, déjà mal? Je n'ai jamais dit que je ne te blesserai pas. J'ai dit que cela ne te tuerait pas. Et n'est-ce pas, bon, je finis. Le lézard a commencé à bavarder fort. Faites attention, dit le lézard à son bonhomme. Il peut faire ce qu'il dit. Il peut me tuer. Un mot fatal de ta part et il le fera. Alors tu seras sans moi pour toujours et à jamais. Je serai si bon. J'avoue que je suis parfois allé trop loin dans le passé, mais je promets que je ne le ferai plus. Et voilà comment nous faisons avec le péché, n'est-ce pas? Avec certains péchés, nous ne voulons pas qu'ils soient complètement tués. Nous voulons pouvoir jouir un peu, juste un peu de ce péché de temps en temps, n'est-ce pas? Mais pas être complètement sans ce péché. Mais Paul dit, faites mourir. Maintenant, je suis d'accord avec vous parce que dans votre tête, vous dites, mais sur la terre, il n'est pas possible qu'on fasse mourir complètement un péché de notre vie. D'accord, oui, mais nous sommes quand même dans cette démarche. Nous sommes en train de mettre à mort de plus en plus le péché et notre but est vraiment de le faire mourir complètement. Alors, je termine ce matin avec ça. Je vois que le temps est allé loin. La prochaine fois, on va parler de ce qu'on doit dépouiller De comment le faire, de pourquoi le faire, les motivations sont très intéressantes. Ce qui nous pousse à faire cela est vraiment très motivant et très profond. Mais voilà, la question pour nous, c'est où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous comprenons que la démarche chrétienne de sainteté a ces deux facettes et que cette première facette de se dépouiller du péché, c'est vraiment de rejeter, de faire mourir parce que je ne suis plus cet homme. Et si je continue à faire ces choses, je suis dans une illusion complètement au sujet de moi-même. En fait, je pense que je suis ça, je pense que je veux ça, mais ce n'est pas vrai. C'est les bords de ma personnalité, c'est les marges, les restes du péché en moi, mais ce n'est pas moi. Donc que Dieu soit loué de ce que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous pouvons rejeter et faire mourir ces choses parce que nous avons en lui dépouillé le vieil homme. Que le Seigneur nous aide et dans les semaines à venir, nous allons creuser plus loin.